franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Georges Pompidou, président 1969-1974. Une expo aux Archives nationales à Paris, un timbre des festivités à Cajar, où il possédait une maison, et à Montboudif, où il naquit il y a 100 ans. On attend d'ailleurs Jacques Chirac à Montboudif. Que va pouvoir dire Jacques Chirac dans le Cantal ? Georges Pompidou, un nom rebondi de terroir, une enfance rustique façon les travaux et les jours, un côté cousin de province à qui on ne la fait pas, et de l'autre côté, un normalien brillant, heureux d'entrer dans la banque et de pouvoir s'acheter la collection de la Pléiade dans son entier, puis aussi les tableaux et encore une voiture de sport. Tel était Georges Pompidou, Premier ministre en 1962, élu président avec 58% des suffrages en 1969 pour un septennat que la mort écourta. Pendant ces 5 années, il ajouta à ses multiples visages un profil d'empereur romain. Ce n'est pas moi qui me hasarde à tenter ce portrait, mais dans le dernier numéro de la revue Commentaire, Claude Imbert, le journaliste, j'allais dire témoin, mais il y a des témoins journalistes et des témoins de première main. Marie-France Garraud, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez conseiller à l'Élysée au temps de la présidence de Georges Pompidou. Robert Poujade, le premier ministre de l'Environnement, c'est Pompidou qui a inventé
oui,
c'est le
ministère de l'Environnement. Pompidou qui l'a accepté, le président qui l'a accepté.
Distinguait deux hémisphères à l'Élysée. Parmi les conseillers, d'un côté, il y avait Jobert, Balladur, et de l'autre, Pierre Juillet, que vous venez de citer, et vous. Et il ajoute, Robert Poujade, le soir, on allait boire un whisky dans un salon avec eux deux. Il y avait de la classe, du tempérament. On ne s'ennuyait pas avec eux.
La division géographique résulte de la construction des palais classiques. De cette sorte, le bureau du président était au milieu et il y avait un côté du bureau du président et l'autre côté du bureau du président. Celui qui était plus politique et l'autre qui était plus administratif et où on ne buvait pas de whisky.
Alors vous n'êtes pas seulement le témoin de l'Élysée de l'époque Pompidou, vous êtes un peu un témoin de la Ve République de toujours. Marie-France Garraud, on va peut-être commencer par le fondement, parler du rapport entre Georges Pompidou et le général de Gaulle. Il a été membre de son cabinet dès octobre 1944, il a été témoin de la traversée du désert, il a été directeur du cabinet au moment du retour au pouvoir, et puis je le disais, après Michel Debré, Premier ministre depuis 1962. C'était Pompidou un simple successeur du général de Gaulle, un épigone comme on dit, ou un cofondateur de la Ve République?
Hier soir, en pensant à votre émission, j'ai jeté un coup d'œil sur le livre de Debré dans son dialogue avec Georges Pompidou, qui est un livre intéressant. Et il fait une remarque sur une réalité qu'on oublie largement, c'est qu'en effet, les rapports de Georges Pompidou avec le général de Gaulle datent du tout début de la retraite du général, exactement de la fondation, enfin de la création du mouvement qu'il avait initié.
Le RPF.
Et, absolument. Et Michel Debré, qui avait avec Pompidou des relations ambiguës, mais très respectueuses l'un de l'autre d'ailleurs, fait remarquer à quel point il avait été frappé ab initio par l'incroyable esprit de synthèse de Georges Pompidou et sa qualité qui le poussait à aller tout de suite au centre du problème et à définir le centre du problème. Et je crois que lorsqu'on parle de Georges Pompidou par rapport au général de Gaulle, il ne faut pas oublier cette période qui a été longue, qui a été celle d'une imprégnation par le général de ce qu'était Pompidou, qui était absolument différent du général par la naissance, la vie, l'histoire et le tempérament. Il n'était pas gaullien, Pompidou. Il est devenu gaulliste par l'intelligence. Il a été séduit, je crois, intellectuellement, par le personnage du général et par sa construction institutionnelle, par la construction juridique dans laquelle il a cherché et réussi, au moins pendant un temps, à faire en sorte que le pays soit conduit par un pouvoir qui est l'expression du peuple. Parce que depuis la Révolution française, quand même, on oublie un peu trop, c'est le peuple qui est souverain, pas les partis politiques, le peuple. Et en même temps, d'une main ferme et exigeante, d'où les institutions de la Ve République. Et c'est d'ailleurs probablement parce qu'il n'avait ni le passé, ni l'aura, ni le charisme du général que Pompidou a été tellement scrupuleux sur, d'une part, le maintien des institutions dans leur essence. Quand j'entends parler maintenant de supra-présidence, super-présidence, une succession de néologismes qui n'ont aucun sens d'ailleurs, sauf de vouloir donner une image déformée. Et sa position ensuite, quand il était à l'Élysée, c'est-à-dire une perspective qui était celle de la place de la France dans le monde.
Alors, fils scrupuleux, à un moment, il s'est pensé le fils préféré. Il est venu à un autre moment.
Il n'était pas le fils. Il était un héritier. Il était un disciple.
Le disciple préféré, pensait-il, il est venu un moment, après 1968.
Comment pouvait-on penser que le général ait des préférences, vraiment ?
Après qu'il a été remplacé par Couve de Murville, il est venu un moment où il est devenu un disciple émancipé. Pendant l'hiver 68-69, la question de la candidature de Georges Pompidou, qui n'est plus que député du Cantal, est régulièrement posée. Et après des propos tenus pendant un voyage à Rome, il est obligé d'apporter les précisions que voici après sa supposée déclaration.
Je ne fais à l'heure actuelle aucune campagne électorale. Grâce au ciel, le général de Gaulle est bien installé. Et quant à moi, je crois en effet que si la présidence de la République est vacante un jour, le jour où le général de Gaulle aura cessé ses fonctions, eh bien, je crois probable que je serai candidat. Mais d'ici là, bien des choses se passeront. Et en tout cas, ce n'est pas ma pensée permanente, ma préoccupation permanente.
Beaucoup de choses.
Oui, c'est tout à fait. En fait, cette déclaration de Rome, elle n'a pas existé. Elle a existé, mais elle n'était pas une déclaration de Rome. Le général était à Rome, il était accompagné, je crois, de Simone Servet.
Vous voulez dire Georges Pompidou ?
Georges Pompidou était à Rome, il était accompagné de Simone Servet. Et nous étions, nous, l'équipe nombreuse qui entourait Georges Pompidou pendant cette période. Nous devions être 5, je pense, rue de la Tour-Maubourg. Et on a reçu cette dépêche, nous aussi, comme quelque chose d'absolument éclatant et bouleversant et inopportun, il faut bien le dire. Et en revanche, Simone Servet et Georges Pompidou, quand ils sont rentrés à Paris, ils étaient stupéfaits. Car Georges Pompidou avait fait la réponse qu'il avait déjà fait une bonne dizaine de fois dans des circonstances similaires. Et un journaliste avait pris ça pour un scoop et avait fait le scoop. Bon. En revanche, je pense que la déclaration que Georges Pompidou a faite à Genève, oui, là, elle était volontaire.
Et ça, c'était ?
Et c'était quelques semaines plus tard.
Voilà. Et elle a pesé, peut-être dans le résultat du référendum.
Non, je ne crois pas.
De Gaulle lance son référendum. Il a eu lieu en avril, il est battu.
Bon, le résultat du référendum vient d'une part du fait que le texte était épouvantablement mal rédigé et du fait que Valéry Giscard d'Estaing s'est quand même rendu coupable d'un parricide.
Très bien, Marie-France Garraud avec vous. On ne s'ennuie pas, c'est bien ce que disait Robert Poujade.
Il a voté non avec regret.
L'exercice du pouvoir ensuite va transformer l'homme, vous l'avez vu, changer tout de suite.
Oui. Je pense que la fonction présidentielle, quand on l'entend comme elle était dans sa conception initiale, c'est-à-dire chez le général et chez Georges Pompidou, est une fonction qui donne de la gravité à celui qui l'exerce, au sens physique du terme. On pense à Atlas. Atlas a sur ses épaules le globe. Et cette charge donne du poids, de la gravité, transforme. Et il y avait un rite, je ne sais pas ce qu'il en est advenu maintenant, dans l'investiture du président de la République, qui était le fait qu'on lui mette autour du cou le grand collier de l'ordre de la Légion d'honneur. Et je pense que toute proportion gardée, cette imposition du grand collier était un petit peu une forme de sacre. Non pas au sens de la monarchie, bien entendu, mais un peu. Et il est à remarquer que, bien entendu, le général avait le grand collier de la Légion d'honneur, si je puis dire, par lui-même. Pour Pompidou, cette imposition du grand collier, on a presque vu son visage changer. Et celui qui n'a pas voulu que le grand collier lui soit posé autour du cou, c'est Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, on ne voit pas le grand collier dans la photo de l'Artigue en 1974.
Non, et je crois que c'est très intéressant, car il a regardé le grand collier dans son écrin. Et ça correspond un peu d'ailleurs à sa présidence. Il s'est regardé être président, d'une certaine manière. Il n'était pas véritablement engagé dedans.
Si vous voulez bien, on revient en 1969. Il faut, quand on devient président, souvent choisir entre l'intérêt général et l'humanité. Cependant, l'homme débordait de la fonction régulièrement chez Georges Pompidou. Exemple, ce point d'orgue inattendu à l'issue d'une conférence de presse. Nous sommes en septembre 1969 et le président va évoquer le suicide de Gabriel Russier.
Jean-Michel Royer, Radio Monte-Carlo et l'actualité. Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond ?
Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé, d'ailleurs, sur cette affaire. Ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard.
L'âge de la majorité à l'époque, c'était 21 ans, c'est à Valéry Giscard d'Estaing qu'on doit l'abaissement à 18 ans. Pour répondre ce que Pompidou répondait en septembre 69, que ce fut improvisé ou non, Marie-France Garraud, il fallait quand même une certaine liberté.
Oui, pas du tout, c'est de la pudeur. C'est de la pudeur. C'est une manière de dire les choses derrière Éluard, sous Éluard, avec Éluard. C'est très élégant comme réponse. Vous... Élégant en termes politiques et de cœur.
Vous êtes toute tendue vers la politique.
Non, pas
on
du tout.
Sait.
Alors ça, pas du tout.
On vous imagine mal faire non. autre chose. Tandis mais que Georges Pompidou, lui, il aurait pu faire autre chose.
Je préparais l'agrégation de droit. Je n'avais jamais eu la moindre idée de m'occuper de politique. Je suis allée au cabinet de Foyer pour 6 mois. Il est devenu garde des Sceaux. J'y suis restée. J'étais plus par Pompidou. J'y suis restée. Puis après, j'étais trop vieille pour passer l'agrégation. Il y a qu'Edgar Faure qui peut passer l'agrégation à 55 ans.
Donc, comme vous... Il aurait pu faire tout autre chose que de la politique.
Oui, mais je crois qu'il était, lui, passionné par la politique pour la faire. Et c'est venu certainement de son passage, appelé par Brouillet auprès du général. Là, oui. C'est ce que dit Debré, je crois que c'est vrai. C'est ce qu'il disait lui aussi, d'ailleurs. Et là, il y avait sans doute aussi la tentation de s'engager en politique, alors qu'il ne l'avait pas été. Il était anti-nazi, mais il ne s'était pas engagé politiquement ou dans ses actes pendant la résistance. Debré dit que c'était une blessure, je ne crois pas, mais c'était sans doute un des éléments qui faisait qu'il souhaitait consacrer sa vie, une partie de sa vie en tout cas, à un engagement politique, qui n'était pas du tout au départ un engagement permanent. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il est allé et revenu.
Kissinger disait qu'on avait beaucoup de plaisir à parler d'autre chose que de politique avec lui parce qu'il était suprêmement cultivé. Il faut imaginer l'Élysée de cette époque où, à la sortie du Conseil des ministres, Jean Foyer, ministre de la Justice, que vous évoquiez, et le président parlait en latin.
Oui, pour savoir si la fameuse phrase qui définit la souveraineté française, le roi est empereur à son royaume, venait d'un légiste de Philippe le Bel ou d'une décrétale d'un siècle antérieur. Mais vous savez... La Troisième et la Quatrième République fonctionnaient mal, mais il y avait un État. Et surtout, la plupart des hommes politiques avaient une culture et avaient un sens de l'histoire. C'est quelque chose qui a totalement disparu. Mais alors, totalement disparu, il y a quelques exceptions, bien sûr. Mais enfin, un ami américain me disait « Le plus grand dommage, probablement, que nous vous avons causé, c'est de vous faire oublier votre langue et votre histoire. » Et c'est en partie vrai. Nous avons complètement perdu le sens de notre histoire. L'idée, par exemple, du début de la Ve République, c'est comme si on parlait de Vercingétorix. Enfin, je veux dire, les Français, ils ignorent complètement les Louis, à la limite, parce qu'ils sont numérotés. Bon, mais en dehors des Louis, si on leur demande si c'est, je ne sais pas moi, Henri IV ou Philippe Auguste qui était le premier, ils n'en ont pas la moindre idée, en général.
Oui, mais
l'école des Annales, il y est pour quelque chose, d'ailleurs, et le cinéma.
L'école des Annales, Marc Bloch, Fernand Braudel...
Oui. Et du Rosel.
Dites-moi, Marie-France Garraud, ne parlons plus de la France qui s'éloigne. Parce que.
Je n'ai pas dit que la France s'éloignait.
Georges Pompidou était aussi le réformateur de la France qu'il vient. Et s'il faut mettre en exergue une réforme, je voudrais privilégier la mensualisation. Parce qu'elle va nous permettre de parler de l'aspect peut-être le plus important de l'action de Pompidou. Il était capitaine d'industrie et il voulait que dans les industries, les ouvriers, figurez-vous, soient payés au mois, ce qui était loin
d'être
le cas il y a 50 ans. Les Français d'aujourd'hui n'imaginaient pas qu'on était payé quand on était ouvrier au jour ou à la semaine.
7 millions de personnes actuellement payées à l'heure sont directement concernées par le projet gouvernemental de la mensualisation des salaires. Cette mesure va évidemment avoir des conséquences importantes, car les ouvriers horaires devraient dans l'avenir bénéficier des avantages actuels des mensuels. Primes d'ancienneté, jours supplémentaires de vacances, meilleure protection en cas de maladie, de maternité ou de licenciement. Mais en réalité, dans l'esprit du gouvernement, la réforme va beaucoup plus loin.
À quoi tend la mensualisation ? C'est à effacer cette discrimination qui existait entre les ouvriers de production, les ouvriers utilisant du matériel technique, et puis ceux qui travaillaient dans les bureaux et qui étaient considérés comme les collaborateurs de la direction.
Alors ça, c'est Pierre Juillet qui a initié cette réforme.
C'est
Pierre
exact.
Juillet, votre compère qu'on présente d'habitude comme un berger conservateur de la Creuse.
C'était au cours d'une discussion avec Balladur, Pierre Juillet, et le président Pierre Juillet et le Balladur, sur la participation. Et il se trouve que Pierre Juillet, qui était un homme indépendant, après la fin du RPF, avait pris des activités pour vivre, et en particulier, il dirigeait une entreprise, qui était d'ailleurs une entreprise de voitures, etc. Et il a dit, c'est très gentil de parler de la participation, mais il faudrait quand même songer qu'une grande partie des travailleurs, ils ne sont pas à la participation, ils ne sont même pas payés au mois. Alors avant de faire la participation, il faudrait faire la mensualisation. Je crois que c'était une bonne idée, c'est une bonne réforme, mais enfin, ce n'est pas le cœur de l'action de Pompidou.
Le cœur de l'action de Pompidou, est-ce qu'il n'est quand même pas dans le domaine industriel, une industrie à visage humain? Une industrie à visage français,
oui, oui,
on
oui.
m'accuse de manquer d'un dessein, disait-il. Eh bien, mon dessein, c'est que la France, notamment dans le domaine industriel, soit la première puissance d'Europe devant l'Allemagne.
C'est une partie de son destin, ça n'était pas tout son destin. Certainement pas. Parce que c'est probablement... ce propos est aussi le signe de ce qu'il avait été auparavant, c'est-à-dire Premier ministre. Parce que justement, la gestion, y compris industrielle, cela relève essentiellement du Premier ministre. Le président de la République, lui, il a bien entendu la garde de cet avenir-là. Mais il a un autre, surtout dans l'héritage gaulliste, un autre rôle autrement plus important. C'est la place de la France en Europe et dans le monde. On l'a complètement oublié. Bon, il suffit d'écouter les débats actuels précédant l'élection présidentielle pour voir qu'en dehors du point de savoir si M. Attel a fait ceci ou cela, il n'y a pas la moindre ligne sur les troubles du monde. Mais à l'époque, c'était cela. Et il se trouve que précisément, il y a deux domaines dans lesquels il a eu, de ce point de vue-là, un rôle considérable. C'est d'une part la place de la France au moment où l'Allemagne de l'Ouest, disons pour être clair, et l'Allemagne de l'Est se rapprochaient dans l'ostpolitique, quelle pouvait être la place de la France. Et
l'ostpolitique de Willy Brandt en Allemagne fédérale.
Absolument. Le rapprochement de l'Allemagne de l'Ouest avec l'Allemagne de l'Est, qui s'est terminé d'ailleurs par l'accord de Berlin. Et d'autre part, quelle était la position de la France devant ce rapprochement ? Autrement dit, quelle était la position de la France vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Russie ? Pour employer le mot qu'employait toujours le général, c'était toujours la Russie. C'est le premier grand domaine. Le second, c'est l'affaire de la dissuasion. Bon, la dissuasion avait été, par le général, conçue comme étant tous azimuts, parce que précisément à l'issue de la guerre, il ne fallait pas que la France se présente comme vassale et uniquement liée aux problèmes européens. Il fallait que ce soit plus large, et pour des raisons qui tenaient à un changement de réalité politique d'une part, et de réalité alors financière et économique. Il n'était plus possible de faire une dissuasion tous azimuts, et la modification de la dissuasion, Pompidou a évolué sur ce point. Il a pensé en effet qu'on pouvait, pour économiser un peu du coût fantastique des transformations techniques de la dissuasion, se rapprocher des États-Unis. Il a très rapidement compris que les États-Unis imposaient les expérimentations aux États-Unis d'une part, et que par conséquent, ils perdaient l'indépendance de la France.
Alors, est-ce qu'on peut parler un moment du rapport avec les États-Unis,
Marie-France Garraud ? Et à ce moment-là, il est revenu à une conception stratégique essentiellement gaullienne, précisément, après avoir eu une petite hésitation.
Oui, il a un moment pensé que l'anti-américanisme apparent du général de Gaulle était excessif. Et je voulais vous rappeler un épisode du début de la présidence de Georges Pompidou. À Noël 1973, les Israéliens viennent chercher eux-mêmes des vedettes qui étaient fabriquées pour eux à Cherbourg. C'est qu'ils sont mécontents de la vente par Georges Pompidou de 116 Mirages à Kadhafi, qui vient de prendre le pouvoir à Tripoli. Et aussitôt après, Georges Pompidou s'embarque pour les États-Unis. C'est la première fois qu'il va aux États-Unis. Il part avec ce préjugé positif que vous indiquiez. Le voyage est très perturbé, notamment à Chicago, des milliers de manifestants le huent et parviennent même jusqu'à lui.
L'on sait très bien que le président de la République française a suggéré qu'il voudra aux Juifs d'Amérique et même à ceux de France et à l'État d'Israël, si nous nous déclarons contre son mode d'action. Nous respectons son ministère. Il serait ridicule de ne pas respecter son pouvoir. Mais nous refusons d'être intimidés.
Alors il y a eu évidemment quelques manifestations organisées avec soin pour pouvoir parvenir jusqu'à moi. Je pense que ces manifestants mettent une tache sur le front de l'Amérique et nuisent à leur propre cause. Mais ils ne nuiront pas à l'amitié franco-américaine qui est bien au-dessus de ces manifestations d'impolitesse.
La politesse, c'est très important. Mais pour nous, l'avenir de l'État d'Israël et l'avenir de la cause de la paix est plus important que la politesse.
Comme disait Jobert, qui avait comme vous le sens de la litote, Marie-France Garraud, ce n'est pas le maître étalon de la visite d'État réussie.
Eh bien si. Parce que il y a eu à l'époque, je ne faisais pas partie de ce voyage, il y a eu des discussions à l'intérieur de l'entourage du président pour savoir si on rentrait ou si on restait. Et il a été décidé qu'il resterait. Et du coup, le président américain est venu à New York à un déjeuner solennel organisé à cette fin pour être présent à côté du président français à ce déjeuner. Par conséquent, d'une certaine manière, c'était un succès plus important parce qu'il n'était pas banal. Il manifestait la volonté des Américains, malgré tout, malgré les avatars, de manifester un lien important, décisif et permanent avec la France.
In fine, vous me disiez, je préfère parler politique que d'entendre certaines musiques. Tout de même, Guy Béard.
Non, mais uniquement quand le temps est limité.
Tout de même, Guy Béard, qui appartenait de très près au milieu pompidolien. Puis vous voyez,
absolument.
C'est peut-être de politique qu'il parle ici en 73.
Les proverbes d'aujourd'hui à notre époque ressemblent. Les proverbes d'aujourd'hui sont les clameurs de la nuit. Les oreilles ont des murs qui nous empêchent d'entendre. Les oreilles ont des murs de chair, c'est plus sûr. Et lorsque les chiens aboient, la caravane s'arrête. Et lorsque les chiens aboient, on écoute enfin leur voix.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Marie-France Garraud, en 73, peut-être Béard évoquait-il les attaques diverses qui secouaient l'année d'avant le premier premier ministre de Pompidou, Jacques Chaban-Delmas. On n'a pas parlé des premiers ministres, il y en a eu deux. Le premier, c'était Jacques Chaban-Delmas. On n'a pas parlé de la majorité, quand même, dans la 5e République, que vous l'entendez, c'est important.
Non, au contraire. Bon, c'est important d'avoir... Écoutez, on ne va pas faire du droit constitutionnel, on n'a pas le temps. Bon. Mais encore une fois, il y a un abîme entre la conception de la Ve République dans son essence première, qui est encore une fois l'élection d'un candidat qui est seul. Quand Pompidou s'est déclaré candidat, il a déclaré sa candidature seul. Il est allé ensuite rendre visite aux parlementaires. C'était à l'époque UDR, je crois. Bon, et le parti, le mouvement, d'ailleurs, c'était pas un parti, n'a d'aucune manière été associé à la campagne électorale. La campagne électorale était faite par un staff extraordinairement puissant qui était comporté de 9 personnes. Bon, un jour, les Américains sont venus et ils ont dit on voudrait voir l'équipe. Alors j'ai dit c'est nous. Puis je me suis rendu compte que c'était un peu juste. Alors j'ai dit ça, c'est le staff central, mais il y a beaucoup d'équipes dans la. Bon. Pour revenir au Premier ministre, c'est très simple. Moi, j'ai écrit là-dessus 3 lignes. Le président venait de Matignon. c'est pas forcément une bonne chose. Parce qu'on est toujours encore un peu Premier ministre. Et il pensait que pour gouverner, pour un, il était tout à fait capable de le faire lui-même, ce qui était d'ailleurs parfaitement exact. Mais qu'en revanche, il avait un problème avec un certain nombre de parlementaires qui considéraient qu'il n'était pas un ancien résistant. Bref, il a choisi Jacques Chaban-Delmas. On pensait qu'il choisirait Guichard. Non, il a choisi Jacques Chaban-Delmas. Et c'est de sa faute ce qui s'est passé en partie. Parce qu'au fond, il voulait un ministre chargé des relations avec le Parlement. Voilà.
Bon. Et il a eu quelqu'un qui a sorti de son sac l'idée de nouvelle société.
Mais c'est
que
pas lui. C'est
Georges Pompidou pensait que ce qui était le plus important, c'était l'homme dans
alors
la société.
En deux mots, l'histoire de la nouvelle société, bon, je l'ai répété 10 fois. Pendant la campagne, qui était d'une platitude difficile à dépasser, parce que c'est difficile de faire une campagne sur les cimes en face de Poher. Essayez pour voir, vous verrez. Bon.
Président du Sénat et candidat en 69.
9 lignes de déclaration dans la précédente mandature au Sénat. 9 lignes, c'est pas beaucoup. Donc, on trouvait que c'était un peu plat, et Pierre Juillet avait dit qu'il faudrait demander à Olivier Guichard, qui était toujours suivi par des gens qui pensent, s'il a une idée d'une formule, de quelque chose qui pourrait un peu faire la faveur autour du paquet. Et il est revenu avec une feuille, que j'ai toujours, d'ailleurs je l'ai retrouvée, c'est ce qui me l'a rappelé, sur laquelle il y avait une liste de noms, et parmi ces noms, ce qui sortait, c'était la nouvelle société. Et nous, on était plutôt pour, on trouvait que c'était pas mal, ça avait de l'allure, etc. Et Pompidou est rentré le soir, comme c'était tous les soirs, vers 6h, après avoir sillonné un peu la province, et à la tour Maubourg, adossé à la cheminée, on lui propose ça, et il dit non, non. D'abord, nouvelle société, ça fait un peu café société, un peu Fitzgerald, non, franchement non. Mais surtout, nouvelle société, on ne mentera pas de l'opposer à l'ancienne, c'est-à-dire à celle du général, et cela, je ne le veux pas. Exit la nouvelle société qui était prête à d'autres aventures. C'est pour ça que quand le Premier ministre a parlé de la nouvelle société, ce n'est pas le contenu qui nous a impressionnés, parce qu'on savait qu'il n'y en avait pas. Mais c'était une formule, c'était le fait que ils veulent faire une déclaration d'investiture, comme c'était sous la 4e République, de son gouvernement par le Parlement.
C'est-à-dire qu'il ressemblait davantage à un président du Conseil de la 4e République qu'à Georges Pompidou, Premier ministre.
On ne le répétera jamais assez. Le président est élu sur une ligne. Il choisit un Premier ministre qui applique la politique et met en œuvre, pour prendre la question, la politique sur laquelle il a été élu, à condition qu'il y en ait une. Et les parlementaires votent les lois. Ils ont un pouvoir politique qui est de censurer le gouvernement. Quand ils censurent le gouvernement, le président peut faire une dissolution, un référendum, changer de Premier ministre, etc., etc. L'idée, par exemple, que le Premier ministre soit un parlementaire leader de la majorité à l'Assemblée, Pompidou n'était pas parlementaire quand il a été nommé Premier ministre par De Gaulle.
C'est pendant le gouvernement du deuxième Premier ministre que l'ombre de la maladie s'étend. Je ne sais pas si vous l'avez raconté 10 fois, la dernière chasse. Parce que vous partagiez avec Pompidou le goût de la chasse.
Oui, je voudrais dire d'un mot sur cette année-là. Parce qu'en ce moment, non, mais d'un mot vraiment. Dans les deux questions que j'ai évoquées tout à l'heure de politique étrangère majeure, la dissuasion et l'os politique, les deux décisions sur ces affaires ont été prises dans l'année 73. Ça a été le cheminement de toute l'année 73, les rendez-vous avec Brandt sur l'os politique et la modification de la dissuasion nucléaire qui a fait l'objet, je l'ai dit l'autre jour, d'une instruction présidentielle secrète, IPS, qui est prise par le président pour le Premier ministre et le ministre de la Défense.
C'est parce qu'il maîtrisait donc
et alors, bien entendu, qu'on décommandait quelques ambassadeurs qui avaient des rendez-vous, mais il
continuait d'exercer ses fonctions.
Absolument. Bon, il présidait, effectivement, il est allé à la chasse. J'ai retrouvé la photo l'autre jour, d'ailleurs. C'est-à-dire 3 semaines avant sa mort. À Chambord, il a tiré un cochon qui l'a manqué d'ailleurs. Mais Juillet, qui était à côté de lui, a tué le cochon. Le page tua le cerf, l'honneur en revint au roi. Non, mais voilà, il est resté. S'il y a une scène que j'ai racontée, parce qu'elle est, je crois, très, très révélatrice. À Chambord, qui est une chasse comme toutes les chasses de gros gibier, mais c'est pas à paras, etc. Au milieu de la déjeuner, il y a un verre avec un sandwich dans une cabane qu'on appelle l'Isba, qui est près des étangs. Et il se trouve que ce jour-là, Anne-Marie Dupuis, Juillet et moi sommes arrivés avec 3 ou 4 minutes de retard sur le président. Les invités étaient là, lui aussi. Quand on est rentré dans cette cabane, il y avait une atmosphère très étrange. Le président était assis d'un côté tout seul à une table et les invités à 5 ou 6 mètres près du feu, ce qui est insolite. D'habitude, les invités sont toujours auprès du président. Alors, je vais y voir le président, il lui dit « Qui souhaitez-vous voir auprès de vous ?» Et il a répondu « Oh, laissez Pierre, il me regarde. » Et si vous voulez, je crois que c'est la clé de ce qu'a été la maladie et la vieillesse pour De Gaulle. C'est pas l'homme qui change, c'est le regard des autres sur lui. Merci. Comme dans l'écume des jours, les murs se rapprochent et on suppute.
Merci à vous, Marie-France Garraud. Donc, le centenaire de Georges Pompidou, une exposition aux Archives nationales. Tout renseignement sur notre site. L'émission a été préparée par Clarisse Le Gardien, Frédéric Martin avec la technique, Michael Béziguian, Éric Morin à la réalisation, Jacques Sigal. Il est 14h, vous écoutez France Inter.
Merci beaucoup.